sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Des invités, des chroniqueurs de la musique et de la bonne humeur. Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, votre rendez-vous local à l'heure de la pause déjeuner pour prendre le temps de découvrir plein de belles choses qui se passent juste à côté de chez vous. Nous sommes le mardi 4 mai 2021, le ciel est assez nuageux dans le Beaujolais, des averses ne sont pas à exclure cet après-midi, des pluies éparses annoncées par Météo France et puis des températures entre 17 et 19 degrés toute l'après-midi. Dans notre émission vers 12h35, ce sera l'heure de notre séance de coaching hebdomadaire avec celui qui se fait justement appeler le coach. En fin d'émission, c'est notre moment littéraire avec Bertrand Lamure, notre libraire. Et avant tout ça, eh bien, on passe bien sûr un moment avec notre invité du jour. En studio avec nous aujourd'hui, Marie Rubens, artiste du Beaujolais, musicienne pour être un peu plus précis, et aussi organisatrice de la balade musicale, une balade buissonnière pour petits et grands dans le Beaujolais. 10 km de nature ponctuée ou plutôt rythmé par des artistes, des chanteurs, des musiciens de tout style. C'est la 9e édition qui était prévue le 9 mai initialement. Elle est repoussée au 6 juin à cause bien sûr de la situation sanitaire. Repoussée, pas annulée, tant mieux. Je crois que les organisateurs sont motivés, déterminés à rendre cet événement culturel, bucolique et festif possible. On va parler de cette organisation, de ce qui est prévu lors de cette balade avec donc aujourd'hui Marie Rubens en studio avec nous. On commence d'abord l'émission en musique. Aujourd'hui, le 4 mai, c'est la journée Star Wars. Je me suis fait plaisir. On écoute She Use the Force de Jamiroquai, un titre plein d'énergie qui va nous faire du bien. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Oh,
Jamiroquai sur Calade, Use the Force.
Ensemble sur Calade. 100.9 Calade.
Allez, on va parler d'une balade en nature, une balade assez originale, puisque c'est une balade musicale. Et c'est un rendez-vous assez connu maintenant dans le Beaujolais, puisque c'est la 9e édition qui est prévue cette année. Et pour nous en parler, avec nous en studio, Marie Rubens, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien, en forme ?
Bah oui, pour l'instant, ça va.
Bon, tant mieux.
Merci pour l'invitation.
Bah, c'est un plaisir de vous recevoir dans le studio. On va parler de cette, 9e édition,
oui.
La balade musicale. On peut peut-être parler d'abord de ce qui s'est passé avant, des éditions précédentes. Comment cette idée vous est venue et comment ça a évolué depuis ?
Oui, j'ai eu cette idée il y a 10 ans, un petit peu plus même, peut-être 11 ans, où je cherchais des partenaires, donc j'avais envoyé un dossier aux assos qui font des randos.
Ouais.
Voilà, j'avais envoyé un dossier en expliquant ce que je voulais faire, est-ce qu'ils voulaient bien être partenaires, et j'ai trouvé personne. J'ai trouvé une qui m'avait dit que ça les intéressait, c'était en Suisse d'ailleurs.
D'accord.
Mais sauf que comme ils me connaissaient pas, ça les embêtait un peu.
D'accord.
Et du coup, comme j'ai une compagnie qui s'occupait de la musique et qui avait cette structure, on est parti avec ça. La présidente, la trésorière, elle dit on n'a qu'à le faire avec notre compagnie.
On va le faire nous-mêmes si personne d'autre.
Exactement. Et c'est parti comme ça. Et de tout petit, on apprend chaque année à améliorer le projet.
Ouais. Vous avez quand même monté une association.
Elle existait déjà. C'était,
d'accord.
C'est autour de la musique. C'est une compagnie qui travaille, qui est créateur de spectacles musicaux et tout ce qui s'y rattache, en fait.
D'accord.
Au niveau de la création jusqu'à la promotion.
Et donc, qui est devenue porteuse de cette...
Voilà, c'est AED, la compagnie AED, qui porte le projet depuis le début, du coup. Voilà.
Et la première balade musicale, est-ce que c'était comme aujourd'hui une balade de 10 km avec plein d'artistes ou ça a commencé un peu plus timidement et ça a grandi petit à petit ?
Non, le projet est comme ça depuis le début.
Dès le début
10 km, chaque année on a réfléchi si on changeait de parcours, si on faisait un mini parcours, on y a pensé aussi à faire un mini parcours dans le grand.
Ouais.
On a pensé à plein de solutions, peut-être changer de lieu. Et puis finalement, à chaque fois qu'on fait la balade pour le repérage, on se dit, mais trop bien cette balade, on continue. Et puis avec les années aussi, on demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez, c'est toujours le même parcours. Mais en fait, comme ils ne la font pas depuis un an, quand ils arrivent, c'est comme si c'était tout frais, quoi. Après, ils se rappellent de certains lieux, mais comme les artistes aussi, ils changent d'endroit. Des fois, c'est au même endroit, mais ce n'est pas les mêmes artistes, ce n'est pas les mêmes propositions. Du coup, ils vivent une autre balade, le temps n'est pas le même, les couleurs, le ciel, tout quoi. Donc du coup finalement cette balade elle reste la même au niveau des kilomètres et du parcours. Souvent c'est à quelques petites différences près, quelques sentiers près, cabanes près, on va dire. C'est les 10 kilomètres sont
donc le même parcours, mais le fait de vous la rendez vivante et du coup chaque année elle est différente.
C'est ça du coup on se permet de garder ce parcours finalement et qui est vraiment chouette quoi. Il est très varié en plus au niveau nature quoi. Ça passe du bois aux sentiers tout mini aux vignes, aux vues, aux gros chemins, aux cailloux.
On voit un petit peu de tout. C'est varié dans les décors. J'ai l'impression que c'est varié aussi dans la programmation et dans les gens qu'on va pouvoir, les artistes qu'on va pouvoir y rencontrer.
C'est un peu l'objectif premier de cette balade, c'était le fait que ce soit en extérieur, ouvert, où le marcheur, le public, est libre de rester ou pas, je veux dire, ou de s'attarder ou pas. Du coup, c'est ce qui permet de mettre des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils découvrent, et des artistes qui font des choses plutôt qui sont dans l'expérience, dans la recherche tout le temps, de la création et l'écriture.
Ça va surprendre.
Et la déchirure et la rature et l'expérience, quoi.
Ouais. Beaucoup d'artistes expérimentaux, effectivement, et puis cette année ne déroge pas à la règle. Comment est-ce que vous allez les chercher, ces artistes? C'est un réseau que vous avez,
ça fait longtemps que je fais de la musique, je suis musicienne, je connais pas mal d'artistes et je suis pas mal d'artistes. J'aime quoi. D'ailleurs, sur la balade, il y a des artistes qui reviennent avec différentes formations pour montrer aussi qu'un artiste, il a plusieurs cordes à son arc. Il peut être là un jour comme ça et le lendemain, il sera là avec autre chose. Et ça, je trouve ça chouette de pouvoir montrer ça au public, ceux qui reviennent chaque année aussi. Des fois, ça a été une question. Si je leur mets, ça va pas faire un peu la gueule. Non, finalement, ça passe. C'est pas la même proposition. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de...
Des artistes, de comment est-ce que vous les trouviez, ces artistes?
Bah oui, avec les années, donc les rencontres. Ça, j'ai beaucoup commencé avec des potes quand même, qui étaient sur le parcours, qui m'ont fait confiance. Parce que justement, ce que je vous disais quand j'ai lancé le projet à des inconnus qui me connaissaient pas.
Ouais.
Moi, je ne connaissais pas les assauts de rando, mais moi, ils me connaissaient pas. Mais... Donc du coup, je suis allée voir les potes, j'ai dit voilà le projet, est-ce que vous êtes partant? Parce que ça se trouve, ça n'a pas marché, je ne pourrais pas vous payer.
Ouais.
Donc c'est parti comme ça, et après, petit à petit, parce que je tiens à ce que ce soit des gens professionnels qui soient payés sur ce parcours, qui viennent jouer. Voilà, j'ai pris quelques amateurs parfois, ça a été très rare.
D'accord.
Très rare et...
C'est des artistes professionnels, effectivement, tous. Et c'est ce qui...
Et du coup, je suis contente de pouvoir les rémunérer, qu'on puisse, grâce à cette balade,
valoriser
les payer.
Leur travail.
Et du coup, je peux proposer aussi maintenant, vu que ça avance et que je suis sûre de pouvoir les payer, enfin, sûre à 100%, non, puisque ça fait 3 fois qu'on annule, là.
Ouais.
Donc, merci les artistes qui ont dit oui, déjà, la première fois, la deuxième, la troisième...
Ils vous font confiance.
Ouais, d'habitude, c'est vrai qu'à cette époque, on est complet, la balade. Ouais. On a même des fois réfléchi de faire 2 jours parce qu'il y a des gens qui peuvent pas
le
venir.
Le jour où c'est prévu.
Ouais, parce que c'est plein, parce qu'on veut pas non plus avoir trop de monde.
Mm-hmm.
Déjà, c'est énorme. Donc les artistes, voilà, avec le temps, je peux avoir une petite assurance, leur dire voilà, et puis maintenant, il y a l'expérience, ils voient. Donc c'est plus.
Ils connaissent l'événement, ils savent comment
voilà,
ça se passe.
Voilà, je peux découvrir des artistes que j'aime et les faire venir.
Mmh. Et justement, comment ça se passe pour eux? Parce que la balade, nous, public et randonneurs, on voit les artistes quand on arrive, ils sont en train de jouer, puis on repart et puis ils continuent de jouer derrière. Ça veut dire que les artistes, ils jouent toute la journée.
C'est
ils
ça.
Ont,
c'est des performances.
Ça doit être épuisant.
C'est épuisant et en même temps, ça ressource. Enfin, ça, c'est comme un...
De voir des gens arriver, ça donne de l'énergie.
Ouais, il y a quelque chose de très, très, très positif dans ce... Après, tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de performance. Hein, parce que... Mais après, chaque artiste leur laisse le choix de faire des pauses ou pas.
Ouais.
Moi qui ai joué sur la balade chaque fois, des projets différents... Parce que c'est ce qui me fait triper, en fait. Pourquoi j'organise ça? C'est parce que j'aime jouer dans la nature. Et en plus, s'il y a un public, c'est encore plus géant, quoi.
Ouais.
Donc, je peux dire que j'ai fait des expériences comme ça où tu joues non-stop, mais c'est géant, quoi. Alors, ce que tu fais, ça
se
développe.
Et c'est quoi, si on prépare, on se dit, on va faire un truc de 1 heure qu'on...
Alors, chaque artiste est libre, justement. Ouais. Il y en a, ils préparent un set de... Parce que c'est 10 km. Donc, les gens... L'objectif, c'est pas que les gens restent 1 heure par artiste. Hein, parce sinon... L'objectif, c'est qu'ils aient
ils
du son dans les
nuit,
oreilles, qu'ils découvrent des choses, qu'ils avancent, qu'ils soient attirés, qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils aient envie de repartir. C'est un petit peu un petit parcours magique, on va dire, sonore. Donc l'objectif, l'artiste, il est libre, il fait soit un set de 5 minutes, 10 minutes, un truc qu'il fait en boucle pendant tout le temps.
Ouais.
Ça peut être des pauses toutes les 20 minutes aussi, des petits sets de 20 minutes. Chacun est libre de faire son...
Dans sa proposition.
Et de faire des pauses ou pas. Moi, j'ai fait des balades sans manger.
Mm-hmm.
On a un casse-croûte, hein. Les organisateurs nous filent un casse-croûte, normalement, hein. Pas cette année à cause du Covid, on peut rien faire. Mais on a un casse-croûte et des fois, je l'ai pas touché, ou à la fin, quoi. Ça y est, je peux manger. Puis t'es content,
en fait.
T'as fini, puis d'un coup, t'as 2 baladeurs qui sont partis en retard, qui arrivent, qui sont là. Non. Alors il faut jouer.
Bon, alors joue un morceau, alors.
Voilà. Bon, après, on est les artistes sont libres, du coup. Mm. Donc ça fait c'est ça aussi qui fait la différence dans les propositions.
Vous nous avez beaucoup dit là, depuis le début de l'interview, cette année on a été annulé 2 fois, on a eu ci, on a eu ça.
L'année dernière annulé,
ouais.
On reportait le 4 octobre annulé, donc là le 9 mai annulé.
Ouais.
On s'était dit peut-être qu'il y a une exception à la règle, il y en a toujours. Donc, mais non, pas pour nous cette année. Donc, 3 annulations. On espère que celle du 6 juin, elle aura vraiment lieu.
Ça va tenir. J'ai l'impression, c'est ce que je disais au début, que vous êtes déterminé, que vous êtes motivé et que...
Oui, il ne faut pas lâcher.
Ouais.
Et pour tous, hein, c'est la même chose. Nous, c'est pour la balade parce que... Mais c'est dur. Mm-hmm. Parce que quand on ne sait pas, ben, on n'a pas envie. On ne sait pas pourquoi on le fait.
Ouais.
Bon, ben là, on le fait parce qu'on se dit qu'un jour, elle va réexister.
Il faut réussir à se motiver malgré les incertitudes, c'est ça ?
C'est ça. Ouais. Il faut s'inscrire. Les gens peuvent s'inscrire là maintenant. Ils foncent, ils s'inscrivent. De toute façon, à cause du Covid aussi, on fait un système de remboursement. Mmh. Si la balade est annulée et que les gens veulent être remboursés, ça se fait.
Dans les changements concrets que ça implique sur la balade, sur l'événement, qu'est-ce qui...
Énorme. Il n'y a plus de buvette, il n'y a plus de restauration, il n'y a plus de fly, ni d'affiches papier. Tout ça, c'est fini parce que c'est pour que ça finisse...
Si c'est annulé, ouais. Écrire, imprimer plein de flyers qui écrivent une date alors qu'il faut repousser.
Ouais, voilà, c'est ce qu'on avait fait la première fois. Donc, ça enlève tout ça. Ça enlève le plan B aussi, s'il pleut. Mmh. S'il y a vraiment un temps pourri, on ne peut pas faire de plan B parce qu'on n'a pas le droit de se réunir dans une salle.
Normalement, le plan B, c'est faire le...
Voilà.
Mettre les artistes dans...
Dans la salle, ils se rencontrent. Du coup, ça fait un autre truc. Mmh. Les artistes qui ne se connaissent pas se rencontrent. Certains qui se connaissent se retrouvent. Génial, c'est une super journée. Mais ça l'intérieur, donc ça c'est beaucoup moins bucolique, beaucoup moins sympa, mais ça nous soutient, ça évite qu'on se casse la gueule à 100%. Donc les gens, il y en a dedans, et il y en a qui sont sur le parcours des artistes, pour les baladeurs qui ont vraiment le courage d'aller sous la pluie, voilà, donc il y a beaucoup moins de postes, hein, bien sûr, tous les instruments ne peuvent pas aller dehors. Enfin, voilà, quoi.
Donc cette année, c'est la balade ou rien. Il n'y a pas de plan B.
C'est ça, la balade ou rien. Et c'est ce qui est un peu triste, hein, parce que quand on organise quelque chose, même pour les artistes, c'est pour ça le plan B est hyper important, parce que comme ça, on peut quand même payer les artistes qui ont prévu cette date depuis, parce que ça se programme un an avant. Hein. Un artiste, c'est
bien
pas
sûr, ouais.
Du tac tac, ah, t'es là, t'es libre demain, c'est bon, on y va, quoi.
Vous avez donc il y a une quinzaine d'artistes qu'on va pouvoir découvrir tout au long de
ouais, voire même plus, hein,
tout au long de ce parcours.
Il doit y avoir 17 artistes à peu près, ou 18, et plus aussi. Maintenant, j'aime bien avoir le retour vidéo, justement. Après, je fais le montage, et il y a une caméraman qui filme et un sondier qui prend le son, comme ça,
ils font la balade.
Voilà, et comme ça, moi je peux la voir.
Ah oui.
Eh oui, je peux la voir et je fais un montage. Alors on fait des montages des fois un peu longs, puis des fois très courts, juste pour montrer aux gens.
Et on les retrouve sur YouTube d'ailleurs.
Sur YouTube.
Balade musicale. Et
ah oui, sur la balademusicale.com, vous avez toutes les infos sur YouTube, sur ce que... Voilà, c'est...
On peut
c'est
voir
parti, quoi.
À quoi ça ressemble. Et donc cette année, il y a des duos de percussions, de guitare, voix, il y a un petit peu de tout, de la cornemuse.
Solo de cornemuse, alors ça c'est expérimental, c'est très rare. Hein.
Ouais.
Donc Julien Cartonnet qui va venir, qui est du Beaujolais justement, c'est chouette aussi parce que les gens vont le découvrir. Et donc cornemuse, voilà, je suis impatiente de découvrir ce son et cette... expérience.
Et ce style musical, il y a des pointures, on le disait un petit peu hors antenne, il y a des artistes, c'est des pointures dans leur...
complètement, dans ce qu'ils font, c'est du... Ouais.
C'est des grands noms. Bon, on a hâte de découvrir ça au cours de cette balade musicale. Rendez-vous donc le 6 juin.
Il faut le 6 juin, inscrivez-vous dès maintenant.
Il faut s'inscrire à l'avance, comment
en
on
ligne.
Fait
Inscription en ligne.
Sur le site internet.
Voilà, comme ça, le jour J, vous venez, vous donnez votre billet d'inscription et vous... Comment dire ? Votre billet d'inscription, c'est ça, au point, accueil et au point départ. On vous donne le parcours et vous partez. Voilà.
Parfait.
Et tout ça, ça sera le 6 juin. Rendez-vous entre 10h et midi. Mmh. Les gens viennent, ils se garent. Et chaque point accueil et départ sera sur les parkings cette année, pour éviter les rassemblements au même endroit.
D'accord.
Le Covid nous a permis aussi d'étudier les choses différemment, de voir d'autres façons de penser pour réaliser quand même cet événement qui nous tient à cœur.
et d'avoir une toute nouvelle organisation. Très bien.
Donc, c'est ça.
Sur labaladmusicale.com. Mmh.
Les cerveaux, ils ont bien fumé.
Pour avoir toutes les données. Merci beaucoup, Marie-Rubens, d'avoir
passé ce moment avec nous. Merci beaucoup, Mathieu, de m'avoir invité à cette charmante émission.
Et ben, c'était un plaisir. On se quitte en musique avec l'un des artistes programmés pour cette balade musicale, Lionel Martin. Je vais réussir à le dire,
oui,
au saxophone.
Sax Mad. Mad Sax, pardon.
Mad Sax, effectivement. Un titre qui s'appelle Réalité. Vous allez voir, on va voyager. À bientôt, Marie-Rubens.
À bientôt.
Lionel Martin sur Calade avec l'un de ses titres qui s'appelle Réalité, extrait de l'album très expérimental solo. C'est l'un des artistes qui sera donc programmé pour la balade musicale, balade du 6 juin. On continue dans Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Oui, c'est l'heure de notre séance de coaching hebdomadaire. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
En forme ?
Dis donc, c'est pas un peu pour se foutre de moi, là, ce gars qui a l'impression d'avoir des vieux Marines là, qui font une espèce de petit salopard comme ça. Là.
C'est les Full Metal Jacket avec le fameux colonel.
Ouais, tu semblais bien. Ça y est, tu t'es vengé, c'est ça ? Parce que j'ai parlé de tes succès sur Instagram. Donc, le coach, je lui ai envoyé un petit truc là comme ça. Hein.
C'est ça, c'est ça.
C'est de bonne gueule, gamin. C'est de bonne gueule, ça me fait marrer.
Bon, bah ça va alors.
Alors, tu sais, gamin,
oui.
Je vais affirmer un truc. Nous sommes des animaux.
Bah, on commence bien.
Bah, oui, je veux dire, si on regarde de façon très objective, nous sommes même des mammifères, donc nous sommes des animaux, même si certains se croient très supérieurs. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on en, on prend souvent aussi au vocabulaire animalier pour décrire caractère de cochon, c'est une pince de crabe, enfin voilà. Hein,
c'est vrai.
Quelque chose qui... Mais ça vient quand même du fait parce que nous sommes des animaux.
Ouais.
Et donc, on va partir du principe que c'est acquis pour tout le monde. Et comme tous les animaux, nous avons une organisation de vie au sein d'un groupe. Hein. Les humains sont considérés comme des animaux sociaux. Alors même si certains et certaines ne sont franchement pas faits pour la vie en société, passons. Dans nos relations sociales, nous sommes donc amenés à traiter des sollicitations, des demandes, et nous devons souvent nous positionner et apporter une réponse. Lorsque nous avons des enfants, nous constatons un glissement souvent vers la réponse « non » au fur et à mesure qu'ils grandissent. C'est-à-dire que plus ils demandent de trucs, plus on dit « non, non, non » comme ça, sans arrêt. Bon, ça c'est une autre question, et à ce sujet, je vous renvoie sur l'article très intéressant que vient de publier Titiou Lecoq sur sled.fr. Je pense que le gamin vous mettra le lien vers l'article sur le site de la radio.
Très bien.
En tant que nouveau mâle alpha, nous avons à cœur de nous montrer juste lorsque nous répondons aux sollicitations et aux demandes, qu'elles viennent de nos proches ou des personnes avec qui nous interagissons, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Être juste, c'est à la fois simple et compliqué. Nous avons l'aspiration de développer un mode de relation authentique et sain avec les autres. Nous avons aussi l'aspiration de répondre avec bienveillance, mais sans oublier de nous préserver. Il nous faut prendre en compte si nous pouvons répondre positivement sans nous mettre en insécurité ou en difficulté. Ce n'est pas être dans le calcul permanent et dans le manque de spontanéité face aux sollicitations que de penser se préserver. Il faut apprendre quelque chose de difficile pour certains d'entre nous, savoir dire non. Et pour faciliter ce positionnement, être capable de dire non, eh bien, il faut être clair avec notre intention. Quand on répond non à la demande et pas à la personne. Et si on est clair avec ça, eh bien, la personne qui formule une demande pourra plus facilement accepter notre refus. Et si cette personne ne parvient pas à l'accepter, eh bien, j'ai envie de dire, ça devient son problème, ça n'est pas le nôtre. On ne va pas non plus se prendre la tête avec des chieuses et des chieurs. En tant que nouveau mâle alpha, nous sommes animés par l'intention de nous montrer juste lorsque nous devons répondre à plusieurs demandes. Comment être juste, par exemple, entre ses enfants ou entre ses collègues lorsqu'ils sont plusieurs à nous solliciter ? Nous devons prendre le temps de réfléchir à cette question, car pour être juste, nous avons à choisir entre deux postures, l'égalité ou l'équité. L'égalité et l'équité sont deux concepts proches qui pourtant sont fondamentalement différents. L'égalité, c'est un mot que nous connaissons bien. Il fait partie de notre devise avec la liberté et la fraternité. Coluche avait même fait cette remarque acide, « Les hommes sont égaux, mais certains plus que d'autres ». Et le principe d'égalité, c'est de donner pareil à tout le monde sans aucune distinction. Ça a été pendant très longtemps le principe des allocations familiales. Quel que soit leur revenu, toutes les familles bénéficiaient du même montant en fonction de du nombre d'enfants qui composaient la famille. Et le principe d'égalité appliqué à nos relations a pour conséquence que nous donnions le même temps, le même investissement à tous nos proches. Et si vous êtes parents, cela veut dire que vous donnez à l'un de ce que vous donnez à l'un de vos enfants, eh bien, vous le donnerez aux autres. C'est une approche intéressante que de rechercher l'égalité. D'ailleurs, l'égalité est un concept contre lequel il est difficile de s'opposer. Il a pourtant un défaut en ce qui concerne nos interactions. C'est qu'il ne tient pas compte des besoins des autres. Et c'est là où l'équité est intéressante. La posture de l'équité, c'est de donner aux autres selon leurs besoins. Dans une fratrie, par exemple, les enfants sont différents et ont des capacités et des besoins différents. Ainsi, un enfant a peut-être besoin de plus de soutien dans les devoirs scolaires que sa sœur ou son frère. Un autre enfant a peut-être besoin d'être plus rassuré face à des échecs qu'un autre. Aborder nos relations avec le principe d'équité, c'est donner aux autres ce dont ils ont besoin, tout en respectant nos propres limites et nos propres moyens. Et l'équité, elle permet aux autres d'obtenir l'égalité. Parce que l'égalité ne doit pas être dans ce que l'on donne, mais dans ce que l'on veut obtenir. Sinon, si on est dans l'égalité dans ce que l'on donne, eh bien, on ne fait que nourrir l'inégalité de départ. Et ça, c'est un peu un retournement qui est parfois difficile à comprendre. Et parfois, on retrouve cette erreur de raisonnement concernant, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes. On confond l'égalité de traitement et l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Et lorsqu'une situation est inégalitaire, eh bien, on la corrige grâce à un traitement équitable, en donnant plus à ceux qui ont ou celles qui ont plus besoin et en donnant moins à ceux ou celles qui ont moins besoin. Les gars, tout ce que je vous dis, ça marche très bien sur le papier, enfin en théorie. Parce que j'aimerais quand même vous dire un truc. Même si vous atteignez l'équité parfaite entre vos enfants, eh bien, même si vous faites tous les efforts en vous adaptant à leurs besoins, à leur âge, vous n'empêcherez pas le plus jeune de vous dire « c'est pas juste, elle, elle a le droit de faire ça et pas moi
!» J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vécu là-dedans.
Oh non, t'as chien, si tu savais à quel point.
Très bien, bon. Attention à la différence donc entre égalité et équité. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et bien, merci beaucoup, coach, pour cette rubrique.
Eh bien, moi, je vous souhaite une belle semaine, méga sûre, ainsi qu'à toi, gamin.
Très bonne semaine, à bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, petite pause musicale tout de suite avant de parler littérature. On écoute une nouveauté, The Chorale, avec leur titre Mist on the River. part sur la rivière, c'est ce que nous chantait The Chorale avec Mist on the River.
Encore un peu de lecture.
Ensemble sur Calade.
Mais bon, mais c'est un bon bouquin, je veux dire, c'est sérieux.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, c'est l'heure de l'humeur littéraire du libraire. Et pour cela, on retrouve évidemment Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Voilà, j'espère que vous avez retrouvé le sommeil depuis la semaine dernière.
Bah ouais, ça y est, ça a été un choc, mais bon, bah voilà, hein, c'est comme ça de temps en temps, il faut prendre des risques, il faut aller au fond du trou.
C'est dangereux parfois le métier de libraire,
on se rend pas compte que du coup ça peut faire mal, ça peut amocher.
Bon, alors dans quelle lecture vous êtes-vous lancé cette semaine?
Et ben, je crois que c'est pareil, hein, ça va pas être fun, hein, je sais pas. Je vais être dans un passage. Donc, voilà, on va encore un peu ramer. Donc, je suis désolé, hier, j'écoutais la chronique de Eddy sur le FCVB, qui était ultra méga enthousiaste. Et ben, moi, ça sera pas ça. Voilà. Alors, en fait, c'est pour parler d'un livre et du coup je vais rebondir évidemment sur sa maison d'édition. J'aime bien parler des maisons d'édition qui sont souvent pas très anciennes, hein, qui peuvent être assez récentes. Là je vais vous évoquer à travers le livre qui est Le démon de la colline aux loups, les éditions du Tripode. Alors en fait le Tripode, c'est une maison qui a à peine 10 ans, hein, qui aura 10 ans l'an prochain et qui a déjà fait sa place en littérature, chez les libraires, et c'est vrai qu'ils sont assez extraordinaires parce que chaque sortie de livre, il y a c'est une nouvelle une nouvelle claque qu'on se prend. Et alors en quelques mots quand même, je vais quand même vous parler du Tripode. Donc ça a été une maison qui a été créée il y a 10 ans, enfin 10 ans l'an prochain. Et alors eux, c'est d'après leur dire, ils vont privilégier la sensibilité aux doctrines. Et c'est vraiment ça, privilégier la sensibilité qu'on va retrouver de livre en livre. Alors l'éditeur nous dit que c'est pas évident d'être éditeur, parce que éditeur, on sait pas bien, quelque part on sait pas bien ce qu'il fait. Il écrit pas, il imprime pas. Quelque part, il conseille pas, il analyse pas, et voilà. Il y a quelque chose, une sorte d'alchimie. Et Jacques Pauvert, qui était un grand éditeur, avait dit ceci: l'éditeur doit ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers. J'ai trouvé cette expression très très belle et je tenais à la faire partager. Alors, le Tripode, qu'est-ce que c'est? Eh ben le Tripode, le mot déjà, le Tripode. Alors c'est pareil, c'est très beau, hein, parce que pour eux, le Tripode, en fait, ça viendrait d'abord d'Alfred Jarry, donc Alfred Jarry, grand écrivain du 20e. Et alors Alfred Jarry, je ne savais pas, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les amis, boire un verre, faire du vélo. Et en fait, il avait quand même construit un tout petit cabanon sur pilotis au bord de la Seine, juste pour se reposer, pour être tranquille. Et il avait appelé ça le Tripode.
D'accord.
Et puis également, le Tripode en grec veut dire trois pieds. Donc ouais, trois pieds qui dit stabilité. Et donc pour le Tripode, les trois pieds, c'est les littératures, les arts et les ovnis. Et les ovnis, c'est important parce que chaque livre qu'on lit d'eux, on dit « Mais où est-ce qu'ils sont allés dénicher ça ?» Il y a un côté très ovni dans tout ça.
Ouais, Tripode, ça me fait penser à la guerre des mondes. La guerre des mondes, où il y a des extraterrestres qui envahissent la Terre, et leurs vaisseaux spatiaux, c'est justement des tripodes, des gros trucs à trois pieds qui tombent.
Mais Mathieu, tu es extraordinaire, parce que ça fait partie aussi de la chose que j'allais évoquer. Et donc la guerre des mondes de Wells, et effectivement, c'est les fameuses soucoupes volantes qu'on appelle des tripodes, donc le côté un peu ovni.
D'accord.
Ce Mathieu est extraordinaire.
Excusez-moi.
Et voilà. Et puis du coup, juste pour finir, donc aussi Tripode, bah, c'est un peu le côté trip, voyage, et puis ouais, Odd, c'est un peu le plaisir, quoi. Donc il y a un peu de tout. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est très ailleurs. Ouais. Alors pour parler d'ailleurs, donc il y a beaucoup de livres, on n'a pas le temps d'en parler, mais si vous voulez vous plonger dans la maison d'édition, c'est bien sûr Sapienza, Goliarda Sapienza, grande dame de la littérature italienne qu'on a complètement oubliée. Et grâce au Tripode, on a redécouvert, et en particulier son chef-d'œuvre qui est L'Art de la Joie, qui est un grand roman féminin et féministe du XXe siècle. Pareil, c'est un ovni parce que personne n'en voulait, même en Italie. Il a fallu attendre son décès en 98 pour qu'on le découvre. Et aujourd'hui, c'est une star énorme en Italie et même en France. Comme quoi, voilà, un vrai ovni.
Ouais.
Je cite quand même juste aussi Bérangère Cournu, qui, elle, part plutôt dans des univers un peu chamaniques, autour, entre autres, Né contente à Oraibi, autour d'une jeune fille sur les hauts plateaux du Nouveau-Mexique, ou son dernier de Pierredos, une jeune fille inuite. Voilà. Et puis alors, bon, il faut quand même que je parle de ce fameux livre, dans lequel, pareil, alors c'est pas que j'ai pas dormi, hein,
ouais.
Mais alors il m'a totalement bouleversé. Donc, en fait, alors, on peut être un peu maso quand on est libraire, je reconnais, mais c'est aussi intéressant, je trouve, de lire des livres qui sont très durs, mais quelque part, quand c'est bien écrit et quand on sent, on se dit, ben oui, en fait, c'est peut-être un livre qu'il fallait que je lise parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà, ça nous met face à une réalité. Et là, c'est le démon de la colline aux loups. Donc la colline aux loups, c'est une colline où il y a une maison, on imagine qu'on est un peu à part de la ville, on ne sait pas bien où en France.
Mmh.
Et c'est l'histoire d'un petit garçon. Donc on ne connaît pas au début le prénom, ce petit garçon, en fait il vit avec ses frères et sœurs, ils sont enfermés, donc il y a une notion évidemment d'emblée de maltraitance, avec le père et la mère qu'on voit au départ comme une sorte un peu comme des ogres, et tous ses frères et sœurs sont un peu entassés, ils forment la boule, hein, cette boule qui fait à la fois du bien parce que c'est chaleureux, et en même temps, on sait pas bien qui sont, on sait pas bien ce qu'ils font. C'est très très déstabilisant dès le départ. Et puis, ben, ce petit garçon qui est vraiment le héros du livre, on va le suivre. Donc évidemment, dans cette maltraitance, même c'est même pas de la maltraitance, en fait. Il ne connaît pas la vie. Et en bout d'un moment, il y a quand même une sorte d'assistante sociale qui débarque en disant, ce gamin serait quand même peut-être le maître à l'école. Je dis pas que les assistantes sociales ont un super rôle dans ce truc, parce qu'on se dit, mais putain, où est-ce qu'elles étaient? Et il va aller à l'école. Et ce gamin qui arrive à l'école, alors on peut imaginer qu'il a peut-être 4-5 ans, 6 ans peut-être, voilà. Et c'est un sauvage qui débarque.
Ouais.
C'est un sauvage qui débarque, c'est-à-dire que évidemment il ne sait pas, il sait à peine parler, parce que du coup il était toujours dans la pièce avec les autres gamins à qui on donne à manger de temps en temps, et là il découvre ce qu'est un crayon de couleur. Et on va aller comme ça crescendo tout au long de cette enfance. Évidemment c'est le maltraitant jusqu'à maman à ce qu'on les retire tous. Et surtout ce qui est profondément déstabilisant. C'est « Et la vie ». Donc on va s'apprendre qu'il s'appelle Duke, en fait. Il dit « Bah oui, en fait, je me suis aperçu que Duke, c'était mon prénom. Mmh. » Puisque apparemment l'institutrice m'appelle comme ça. Et on va aller comme ça, et du coup, qu'est-ce qu'un enfant qui a vécu ça va faire de sa vie. Et là, on va le suivre, et j'en dirai pas plus. et c'est un livre qui est très dur. Vraiment très dur, mais j'ai envie de dire qu'il est presque indispensable à lire pour se dire que voilà, c'est aussi la vie de certaines personnes, mais c'est aussi de se dire quand on a vécu ça, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, est-ce que c'est possible d'avoir une vie. Voilà. Et alors malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans la réalité. C'est un roman, là, bien évidemment. C'est un premier roman d'un homme qui, en fait, a lui beaucoup suivi en tant que journaliste des chroniques judiciaires. Donc je pense que malheureusement, il a peut-être pu s'en inspirer. Et voilà. Et donc on suit ça avec beaucoup 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 d'émotions. Et en même temps, c'est comme si c'était écrit par Duke. Donc les phrases sont pas toujours très bien construites. C'est comme un jet. À un moment donné, voilà, c'est quelque chose qui doit sortir. Donc c'est un livre qui est profondément touchant, profondément bouleversant, mais que je suis profondément content d'avoir lu. Parce qu'on a besoin de ça, voilà.
Le, Le synopsis que vous nous avez proposé, en tout cas, ça donne envie. Enfin, il y a pas mal d'interrogations. On se demande ce qui lui est arrivé exactement à ce gamin, ce qu'il va devenir.
Tout à fait, tout à fait. Et puis surtout de se dire que voilà, parfois il faut être confronté à ça. Et je trouve que c'est aussi ça, la littérature. Hein. Mmh. Donc, promis, la prochaine fois, je ferai quelque chose d'un peu plus drôle.
Parler d'un livre pour enfants.
Voilà, c'est ça. Mais je reconnais que. Que voilà, la littérature, c'est aussi ça, des fois, de se prendre une petite claque dans la figure, hein, ouais. Et puis de se dire que voilà, ça nous a peut-être fait avancer. Et puis peut-être que quelque part, ce genre de personnage qu'on va suivre, hein, moi je pense que je veux l'avoir dans la tête pendant très longtemps, mais c'est peut-être aussi que. Je me dis, c'est peut-être un petit quelque chose qu'on aura en nous par rapport à des gens qui ont ou qui souffrent de la violence des hommes.
Mmh. Et ben, donc c'est le démon de la colline aux loups. C'est
tout à fait, de Dimitri Rouchon-Bory. Et donc c'est dans la très belle maison d'édition Le Tripode qui vraiment. Fait des choses extraordinaires. J'ai oublié quand même de citer un titre qui s'appelle « L'homme qui savait la langue des serpents » d'Andrews Kivirnak. Donc, autant dire que ça perd la personne. Hein. Ouais. Et c'est un livre absolument fou. C'est un letton, donc autant dire qu'on lit rarement de la littérature qui vient de Lettonie. Hein.
Ouais.
Et c'est un livre totalement fou. Totalement fou. J'ai mis des années avant de le lire parce que c'était un peu. J'hésitais, puis ça avait été recommandé plusieurs fois par des lecteurs. Et voilà, là c'est tout à fait aussi le Tripode. C'est-à-dire, c'est de l'imaginaire, c'est complètement fou, c'est complètement ovni. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Bravo.
Donc, tout ça, c'est retrouvé dans ces fameuses éditions Le Tripode.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Bertrand Lamure.
Merci à tous. Bonne semaine.
À très bientôt.
Et puis la prochaine fois, promis, on va faire quelque chose de joyeux.
Parfait. Allez, bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Et voilà, c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez bien sûr en podcast sur radio-calade.fr, en podcast ainsi que les rubriques, celle de notre libraire Bertrand Lamure et puis celle du coach. Et puis vous pourrez bien sûr écouter cette discussion qu'on a eue avec Marie Rubens au sujet de la balade musicale qui aura lieu le 6 juin prochain. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.